Congo Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Le 9 juin marque la journée internationale des archives et une occasion de rappeler le rôle fondamental qui joue les archives dans la sauvegarde de la mémoire collective, la transparence administrative, la justice historique, la transmission du patrimoine culturel, l'accessibilité des archives et la numérisation par l'intelligence artificielle comme levier pour démocratiser l'accès aux documents historiques et administratifs. En République démocratique du Congo, de nombreuses voix s'élèvent pour souligner la nécessité de préserver les documents publics et privés qui retracent l'histoire politique, sociale et culturelle du pays. Pourtant, dans plusieurs institutions, les archives sont en danger faute de moyens, de personnel qualifié ou des volontés politiques. À l'heure où la RDC aspire à plus de reconnaissance internationale et de stabilité intérieure, les archives peuvent jouer un rôle dans la construction d'un État fort, démocratique et réconcilié avec son passé. Que pensez-vous des initiatives visant à rendre les archives plus accessibles à tous, notamment grâce à la numérisation et aux nouvelles technologies? Vos actions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones en 9756-80-79. Paul Domasunga est à la mise en œuvre de ce magazine et Jules Fizabongo est sur la réalisation et la coordination. Nelson Nyombe est là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'est Marcel Ngomobala. Toutes et à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
je à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ces pays, n'existaient pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capilla, fréquent de la pays. Merci de nous suivre partout où vous êtes, en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. Vous suivez donc ce magazine en direct sur les plateformes digitales de Radio Capilla, dont vous avez l'occasion de nous suivre en direct sur YouTube, X et Facebook. Et aujourd'hui, on va parler de l'accessibilité des archives à l'ère de l'intelligence artificielle. Comme je le dis, le 9 juin marque la journée internationale des archives, une occasion de rappeler le rôle fondamental que jouent les archives dans la sauvegarde de la mémoire collective, la transparence administrative, la justice historique, la transmission du patrimoine culturel, l'accessibilité des archives et la numérisation par l'intelligence artificielle sont considérés aujourd'hui comme levier pour démocratiser l'accès aux documents historiques et administratifs. Qu'est-ce qu'il en est des archives en RDC? Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio le professeur Kasongo Mandé-Aimé. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel.
Voilà, vous êtes directeur général de l'Institut national des archives du Congo. Inaccessible, on en parle rarement de cet institut. Aujourd'hui, vraiment, on va découvrir cet institut, les défis de tout ce qui est lié à l'archivage en RDC, notamment à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, pour ça, si vous voulez, dans un premier temps, nous faire un état des lieux, en tout cas de l'archivage ou des archives en RDC.
Merci, monsieur le journaliste, pour la pertinence de la question. Et nous sommes l'institution qui s'occupe des archives en RDC. Et la question de l'organisation du travail autour des archives remonte des années 1978. Et en 1978, il y a eu une ordonnance, c'est l'ordonnance 78/013, du 11 juillet 1978, portant un régime général des archives en République démocratique du Congo. C'est le départ. C'est le départ de l'organisation archivistique au pays. Et en 1989, avec l'ordonnance 89, 89 du 26 janvier 1989 fut créé un service public en charge des archives, ARNASA, Archives nationales du Zaïre. C'est ce service qui est plus tard, longtemps plus tard, notamment en 2015, ce service sera subrogé pour créer l'Institut national des archives du Congo. Et cela, c'est au terme évidemment du décret 15/022 du 9 décembre 2015, fixant les statuts d'un établissement public dénommé Institut national des archives du Congo, INACO en cycle. Et ça, c'est notre identité. Et les services fonctionnent donc, l'établissement, c'est un établissement public avec personnalité juridique, et avec autonomie administrative et financière. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore atteint la phase de notre autonomie et financière, ce qui fait que jusqu'à ces jours, nous sommes secourus par les trésors publics qui prend en charge la rémunération du personnel.
Donc ça sera l'occasion pour vous de faire également un plaidoyer hein, par rapport à toutes ces questions, parce que on se rend compte que lorsqu'il y a une journée internationale des archives, donc le 9 juin, donc c'est très très important la question des archives dans un pays. Et comme je le dis, si aujourd'hui, parce que là, c'est depuis 2015 que cet Institut national des archives existe, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le travail que vous faites exactement pour la conservation des archives?
Merci pour cette question. Je pense que, avant toute chose, il faut faire un état des lieux. Oui. Je n'avais pas terminé.
Oui,
je voudrais dire que nous existons à travers toute l'étendue de la République. Nous avons des directions provinciales dans presque toutes les provinces. Il ne nous reste plus que quelques provinces de l'ancienne province de l'Équateur, notamment au niveau des provinces de la Choapa, Bazoubangui et Choapa, je disais. C'est là, trois provinces seulement ne sont pas essaimées par notre structure, mais sinon nous sommes partout. Nous déplorons seulement le faible effectif jusque-là du personnel. Mais pour revenir à la question, qu'est-ce que nous faisons, quoi consiste notre travail? Et je pense que là, vous nous posez la question de savoir quelles sont les missions de l'INACO.
Exactement.
Et l'INACO, c'est au départ un établissement public qui fonctionne comme un établissement technique, scientifique, consultatif du gouvernement en matière de l'organisation de l'activité archivistique à travers le pays. Et le décret fondateur de notre établissement nous assigne un certain nombre de missions. Et, entre autres, nous avons pour mission le contrôle des archives tant publiques privé pour une meilleure protection, conservation de la Constitution et des archives. Ceci fait que nous jouons pratiquement le rôle de police des archives. Nous intéressons à tous les établissements, à tous les producteurs d'archives, qu'ils soient privés ou publics, pour voir comment sont tenues, comment sont organisées les archives.
Mais justement, par rapport à ça, comment ça se passe? C'est vous qui partez vers ces institutions, que ce soit publiques ou privées, ou ce sont ces institutions qui viennent vers vous? Parce qu'on se rend compte quand on va, par exemple, dans la fonction publique, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis passé dans ce bureau-là, mais souvent dans les bureaux de l'État, mais quand on va voir les archives, mais on se demande si vraiment c'est poussiéreux, c'est des documents qui ont vieilli, qui sont des fois même pas classés, et comment ça se passe exactement?
Et votre question comporte deux aspects, oui, essentiels. Et premier aspect, comment nous procédons. Deuxième aspect, vous avez touché
la conservation.
À la définition même des archives, parce que vous parlez des documents poussiéreux. Pour ce qui est de la constitution, de la procédure, il a été institué au terme d'un arrêté signé en 2016, un corps d'inspecteurs au sein de l'Institut national des archives du Congo.
Oui.
Ce sont des inspecteurs qui ont été formés, qui ont été assermentés, qui sont des OPJ. Et ces inspecteurs sont envoyés dans les différentes institutions, dans les différents services, pour se rendre, pour faire un état des lieux de la tenue des archives. Au terme de cette inspection, nous voyons les faiblesses qu'on peut relever dans la gestion des archives de tel ou tel autre service, et ces faiblesses, on propose une remédiation. On propose une remédiation. Là où c'est positif, alors nous encourageons la tenue. Et nous faisons des partenariats avec d'autres services pour un accompagnement technique en ce qui concerne la tenue des archives. Pour d'autres services qui n'ont même pas des dépôts d'archivage, des pré-archivages, nous les aidons à mettre en place un dépôt de pré-archivage conformément aux normes archivistiques en vigueur. Ça, c'est notre façon de procéder. Mais curieusement, il y a toujours des difficultés.
Oui.
Il y a certaines entreprises, certains services qui sont très réticents, qui ne veulent pas nous recevoir parce qu'ils pensent que nous venons contrôler les contenus des archives. Alors qu'un archiviste n'a que des yeux, il n'a pas de bouche.
Il n'a que des yeux, il n'a pas de bouche, ça c'est bien dit. Alors, pour ce qui est de la conservation des documents, parce que là, il faudra rapidement qu'on parle du danger face à la numérisation. Pour ce qui est de la conservation, la conservation traditionnelle, comment ça se passe?
La conservation traditionnelle, d'abord il faut souligner que nous sommes les archives nationales. Évidemment, archives, il faut peut-être commencer par là.
Oui.
Les archives sont des documents, quelle que soit leur date de création, quel que soit leur support, quelle que soit leur nature. Ce sont des documents qui sont élaborés et élaborés par des institutions, par des personnes physiques ou morales, et du fait de leur activité, et qui sont conservées pour des fins juridiques, pour des fins historiques, socioculturelles, pour des fins administratives, pour des fins juridiques. Et c'est ce que nous appelons les archives. Je dis bien quelle que soit leur date de création, parce que on a tendance dans l'opinion publique, on a tendance à considérer une archive comme un document qui a perdu son utilité immédiate et qui n'est plus bon à rien, qu'on doit jeter, qu'on doit entasser, empiler dans des coins de couloir. Non. Une archive révèle la qualité d'archive de sa création. Et là, c'est l'archive courante qui est utilisée dans la gestion des affaires courantes. Et ce sera plus tard une archive intermédiaire ou semi-courante. Et plus tard, ce sera une archive définitive, une archive archivée, donc qu'on doit garder maintenant au niveau des archives nationales.
Et alors,
chez nous, au niveau des archives nationales, nous gardons des archives qui nous sont versées par les administrations publiques ou privées. C'est les archives des troisième âge. C'est-à-dire qui ne sont plus utilisés couramment, mais que nous devons conserver parce qu'attestant...
Pour la mémoire collective.
Oui, parce qu'attestant d'une valeur culturelle, scientifique, peut-être même une valeur historique. Ce sont les archives historiques que nous gardons chez nous.
Alors, certainement pour beaucoup de gens qui nous suivent à l'heure de la numérisation, ou encore s'il ne faut pas de l'intelligence artificielle, il y a ceux qui estiment que pourquoi encore garder des vieux documents alors que on peut bien prendre, mettre ça dans un flash disk.
Non, le document physique a toujours sa raison d'être. Le document physique a toujours sa raison d'être. Je prends l'exemple de la CENI. Il y a une loi de la CENI qui leur interdit d'aller brandir, par exemple, lorsqu'il y a des contentieux, vous allez avec des archives numériques. Non, il faut aller avec les archives papier pour témoigner. Même en justice, quand il y a beaucoup de contentieux là-bas, si vous venez avec les archives numériques, évidemment, les archives numériques, avec le développement de la technologie, on peut en fabriquer, hein, de tous les formats, mais l'archive physique a sa raison d'être.
Alors maintenant, face à l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'archive dans sa forme est traditionnelle, les archives dans leur forme traditionnelle sont en danger?
Non, ils ne sont pas en danger parce que nous avons des dépôts de conservation de ces archives-là. Même dans le pays les plus avancés technologiquement, les archives physiques demeurent. Si nous prenons l'exemple de la Belgique avec les archives générales du Royaume, nous avons fait un déplacement par là, nous avons vu que nos propres archives à nous existent des tonnes et des tonnes et sont gardées dans des caves souterraines. Et ils existent, mais pourtant ils ont réussi à les dématérialiser. Hein, ils ont déjà gardé ça sous format numérique. Alors les deux coexistent. Les deux coexistent, ils ne sont pas vraiment en danger. Et les archives, peut-être l'intelligence artificielle, nous facilite l'accessibilité aux archives sous format numérique, au lieu de se mettre pendant des longues heures à chercher les archives physiques, mais avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, on y va d'une traite et très vite.
Voilà, donc il n'y a pas de crainte par rapport à cela. Avant d'ouvrir le standard, pour avoir les réactions des auditeurs à cette question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est facile de rendre accessible, en tout cas, la population, la communauté, et de faciliter l'accès aux archives?
Oui, c'est facile. C'est une question de volonté politique.
Exactement.
Et aussi une question de sensibilisation, parce que il faut le dire, vous avez insinué dès le départ que on ne sent pas notre existence, c'est comme si il n'existait pas un service des archives. C'est parce que la population dans son ensemble ignore l'existence de notre service, ignore même les missions de notre service. Et je voudrais, parce que je profite de ce micro pour rappeler que nous avons une noble mission. Notre mission n'est pas seulement de conserver, de classer, d'inventorier et de protéger les archives, mais nous avons beaucoup d'autres missions. Nous devons, par exemple, inciter les autorités nationales à l'organisation des enseignements en archivistique. Donc, nous devons faire un lobbying avec les comités de gestion des universités, des instituts supérieurs pour qu'on ouvre des filières où on ne peut parler que des sciences archivistiques et documentaires. Nous avons entre autres mission de faire assermenter tout agent, tout cadre formé en matière d'archivisme.
Ils sont nombreux, les gens formés en matière d'archivisme.
Oui, il y en a qui sont formés sur le banc de l'école.
Oui.
Et il y en a que nous formons nous-mêmes et nous leur décernons la carte ébène, la carte d'archiviste, et ils le deviennent. Nous devons le faire assermenter parce que les archivistes relèvent de la sûreté de l'État, de la souveraineté de l'État. Il faut, pour s'assurer de la meilleure protection, que tout celui qui est appelé à travailler dans l'univers archivistique prête serment. Il se lie par ces serments-là. Nous avons aussi, entre autres missions, de créer à travers le pays des comités, donc un réseau de comités institutionnels des archives. Nous avons pour mission de former, donc la formation de futurs agents, futurs gestionnaires des archives, et même le perfectionnement et le renforcement des capacités des agents et cadres déjà en activité.
Pour ça, on se rend compte de l'importance de l'archivage, également de la mission assignée à votre institution. On s'est viendra absolument quand il vous faut du moyen aussi financier pour remplir toutes ces missions. On va en parler avant la fin de ce magazine. Pour l'instant, on va ouvrir le standard pour accueillir les avis des auditeurs. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui des archives à l'ère de l'intelligence artificielle avec notre invité, le professeur Kasongo Mandi-Imé, directeur général de l'Institut national des archives du Congo. Si vous voulez intervenir, composez 09-716-80-79.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos...
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Jérémy Mamba nous appelle depuis le Bombashi. Franck est à Vienne, en Autriche. Jérémy Mamba, vous avez la parole.
Oui, bonjour, monsieur Marcel. Bonjour également à monsieur Kasongo Mandé, que je salue en passant, parce que je me rappelle quand je venais de finir l'ISP et que je me suis inscrit à l'ISP. Alors, il fut mon professeur en première licence et deuxième, hein, et il m'a bien donné cours de sociolinguistique, je pense, en première licence. Alors, je le salue en passant. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais juste saluer pertinemment le sujet du jour, parce que, vous savez, c'est un sujet très important et qui fait face, n'est-ce pas, qui est presque dans tous les secteurs, mais malheureusement qui est difficilement maîtrisé dans des pays surtout sous-développés comme, ou en voie de développement comme les nôtres. Alors, je voudrais ici dire, et pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à matérialiser ce sujet, il faut nécessairement qu'il y ait une bonne politique, n'est-ce pas, là je voudrais dire une politique efficace de conservation, n'est-ce pas, d'archives, n'est-ce pas, qui doit nécessairement se concentrer sur la protection. Et là je fais allusion, je dis bien, je m'attelle bien à long terme. C'est là que les problèmes se posent. Nous pouvons bien conserver et garder et protéger bien tout ce que nous avons comme archives. Maintenant, le problème, c'est que comment nous devons le conserver et le protéger. Mais à long terme, c'est cette politique qui nous échappe, c'est ici dans notre politique, n'est-ce pas? Parce que là, nous faisons à l'isant que, et nous voyons que la protection, n'est-ce pas, de, à long terme des documents, qu'ils soient physiques ou numériques, c'est vraiment un casse-tête ici chez nous, n'est-ce pas? Et alors, je voudrais ici demander à notre pays, surtout, monsieur le directeur, de pouvoir, n'est-ce pas, se concentrer surtout pour réellement garantir totalement l'accessibilité, n'est-ce pas, et l'intégrité dans ce registre. Cela impliquera aussi des mesures, n'est-ce pas, de prévention physique. Là, je fais allusion, n'est-ce pas, à la température et aussi aux conditions climatiques. Et là, je fais allusion à la lumière, est-ce que les systèmes de gestion qui semblent ne pas être maîtrisés. C'est là que je voudrais aussi interpeller, n'est-ce pas, les professeurs, les éminents professeurs, qu'il faut vraiment qu'ils puissent, n'est-ce pas, veiller ou tenir avant le corps de cette situation pour que réellement on arrive à mettre vraiment une politique idoine et adéquate pour, n'est-ce pas. Vous regardez aujourd'hui, vous trouvez des bâtiments comme dans la fonction publique aujourd'hui. Vous trouvez des bâtiments qui sont construits de manière vraiment désorganisé, désordonné, et donc là, le bâtiment qui abrite les archives soigne ses droits et sous l'œil impuissant de ceux qui sont censés mettre de l'ordre dans ce secteur. Et nous allons perdre beaucoup d'archives, mais nous allons perdre beaucoup de documents qui pourraient peut-être aider au pays dans tel ou tel domaine aujourd'hui. Et c'est pourquoi je voudrais dire ceci. Quand vous regardez aujourd'hui, la protection contre les dangers, c'est aussi un secteur qu'il faut réactiver. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les documents, contre la lumière, contre l'humidité, c'est vraiment difficile à maîtriser, et même les catastrophes. Tout ça, il faut tenir compte. Lorsque nous avons une maison d'archives, comment est-ce qu'il faut assurer, autant qu'on protège les individus, autant qu'on doit protéger les archives, parce que tout pays qui se respecte doit raconter son histoire dans la vie future, tout en ayant une archive de grande qualité. Comment le faire? Il faut pouvoir protéger contre tout ce qu'il y a comme danger, etc. Et aussi, il y a un autre problème. Les techniques qui entrent dans la technique ou la technicité de conservation, c'est aussi le problème de l'encapsulation. Il y a aussi le problème de revue et aussi la restauration des photocopies ainsi que de la photographie qui peuvent, n'est-ce pas, être utilisées pour que nous arrivions à garder l'archive ou les archives, à prolonger leur vie pour que cela puisse constituer, n'est-ce pas,
voilà,
un engrage de taille pour notre pays.
Voilà.
Et aussi, je voudrais finir pour que nous arrivions à sécuriser, n'est-ce pas, il faut que, je venais de le dire, qu'il y ait une politique stricte qui sera nécessaire pour protéger les documents numériques contre le piratage également, et aussi contre la peur et les pertes. Et aussi, ça pourrait aussi amener nos chercheurs à pouvoir y accéder. Et pour y accéder, il faut que nous soyons sérieux dans tout ce que nous faisons, parce que lorsque les archives se portent à merveille pour un pays qui se veut en voie de développement ou développé, ça peut aussi à ce que les choses soient coordonnées de manière efficiente, et ça peut aussi contribuer à de bonnes choses, et ça peut aussi donner du travail à ceux-là qui sont chargés.
Voilà, merci beaucoup Jérémy Mamba depuis Lubumbashi, et on va laisser cette fois-ci en dehors de nos frontières, précisément à Vienne en Autriche, pour retrouver Franck. Franck, vous êtes en ligne depuis Vienne, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Bonjour à votre studio, bonjour aussi à l'invité, le prof. Merci beaucoup pour les décors très pertinents qu'il venait de planter. Parce que en rapport avec cette problématique, il faut repartir des réalités de l'histoire. Les archives partout dans le monde entier jouent un grand rôle, et surtout là où tout fonctionne convenablement. Les archives, c'est le dépositaire du savoir et de l'histoire pour chaque peuple dans la plupart des contextes. Et parler des archives de manière générale, c'est également évoquer la documentation, la technique de la documentation et aussi la technique de leur conservation et les différents mobiles et moments pour leurs usages quotidiens. Et avant la mise en place de la digitalisation avec de nombreuses techniques de la conservation des archives de manière numérique, on s'est servi de la documentation. C'est pourquoi les fameux adages latins « verba olant scripta manent » avaient toutes ces raisons d'être. Et de nos jours, en dépit de l'imposition de plus en plus manifeste des techniques numériques avec la digitalisation, il y a lieu de ne rien négliger. Parce que même ici en Europe, en Amérique, même en Asie, nous sommes en train de constater que les deux techniques et approches de conservation des archives sont encore exploitées. Il y a des bibliothèques nationales partout pour conserver certains livres. Il y a des salles de lecture, il y a des salles des archives. Et là où les gens conservent leur histoire, ou là où les gens ont vraiment le sens de leur histoire, partout où j'ai été en Europe, je constate que la bibliothèque nationale, c'est parmi les sites touristiques les plus attractifs. Mais peut-être seulement chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons plus une culture de l'oralité, si bien que parfois nous avons tendance à négliger l'écrit ou à négliger ce qui contient, ce qui est contenu dans les livres. Je crois que personnellement, par rapport à cette thématique, il faut être d'un certain niveau pour comprendre ce que le prof venait de dire. Parce que chez nous, on pense, il y a des compatriotes qui recourent seulement à leur titre, qui veulent se faire passer pour des docteurs, des éminents professeurs, mais qui n'ont pas vraiment l'essence de l'archive, qui n'ont pas l'essence du livre ou de l'écriture. Et c'est un autre état de pouvoir se mettre en place ou mettre en place une politique aussi historique, parce que quand on vient chez nous, par exemple, moi personnellement, ça me gêne, de voir que ce qui est là à côté du Parlement, ce sont les autres qui doivent les financer, la Bibliothèque nationale ou salle de lecture ou quoi. Mais quand vous êtes d'abord un pays, vous ne savez pas documenter votre histoire. C'est comme ça qu'on a comme conséquence, tel gouvernement passe, celui qui vient, il écrase tout, on change des armoiries, on change des cachets, on change des entêtes et des papiers. Donc, quelque part là, il n'y a pas de continuité historique de ce que nous sommes. On est même en train de voir les drapeaux. Tel gouvernement vient, il change. Tel gouvernement arrive, il change. Finalement, il n'y a pas de constance au niveau de ce que nous sommes. Et quand un peuple ne sait pas d'abord honorer sa propre histoire, quand un peuple ne sait pas se référer à ce qu'il a été et à ce qu'il est et à ce qu'il devra être, il aura toujours des problèmes pour fonder, cimenter son identité. Et ce que le prof dit là, c'est vrai, c'est précis. Parce que sans les archives, on n'aurait pas accès à certaines informations. Il y a la numérisation, il y a la technique de numérisation, il y a la digitalisation, mais parfois certaines données numériques sont affouillées d'abord dans ce qui est, dans ce qu'on trouve dans les archives. Et dès lors qu'on arrive à négliger ces archives, on est quelque part un peu, on n'a pas de racines. Et je crois que dans notre pays, on doit aussi développer cette culture-là de développer encore l'essence de notre histoire. Je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas bien informé. Est-ce que à Kinshasa, nous avons une bibliothèque nationale où on peut, par exemple, recevoir des touristes qui viennent, on les amène là-bas, ils exploitent ou ils font des recherches. Et parfois, on a tendance à trop mystifier certaines données historiques. Vous pouvez avoir besoin d'une information. Vous passez à qui de droit pour demander cette information, mais lui ne voudra pas vous la mettre à votre disposition. C'est parce que on a la culture de ne pas dire exactement ce qui doit être connu et quelque part ça pose problème. Et le prof l'a tout dit. Je crois que c'est à notre décideur de comprendre qu'ils doivent aussi pourvoir à moyen. Parce que pour conserver les archives, il faut beaucoup d'argent, il faut construire des locaux, il faut aérer ces locaux, et il faut mettre aussi dans des conditions vraiment normales ceux qui travaillent là pour conserver, pour garder ces archives-là.
Voilà,
mais dans la plupart des cas, ceux qui travaillent dans les bibliothèques chez nous sont comme des sujets à négliger parce que nous n'avons pas le respect sur l'écrit, sur l'histoire, sur ce que nous avons été hier. Nous nous contentons de ce que nous sommes aujourd'hui pour nous projeter vers demain, alors que le demain doit se référer à ce que nous sommes aujourd'hui et à ce que nous avons été hier.
Voilà,
mais dès qu'un peuple n'arrive pas à le respecter, il ne saura jamais construire son identité dans son historicité vraiment historique.
Voilà, merci beaucoup Franck d'avoir appelé depuis à Vienne et surtout d'avoir également insisté, comme l'a dit Jérémy Mamba, sur une politique des archives. Et puis pour votre information, il existe bel et bien ici à Kinshasa une bibliothèque nationale. Voilà, on revient au pays pour accorder la parole à Junior Mpongo qui nous appelle ici à Kinshasa, la capitale de la RDC. Junior Mpongo, vous avez la parole.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour professeur. Vous m'entendez?
C'est bon, on vous entend très bien, allez-y.
Merci pour la thématique. Moi je pense que l'accessibilité des archives à l'ère de l'intelligence artificielle n'est pas un simple progrès technique. Et d'ailleurs le professeur l'a rappelé. C'est pour moi une exigence démocratique et un acte de souveraineté mémorielle. Pourquoi je le dis ainsi? Dans le sens que numériser, classer ou ouvrir les fonds documentaires, c'est garantir la transparence, protéger la vérité historique et ancrer l'état des droits dans une continuité archivistique. Mais j'ai encore des petits soucis de la manière dont les archives sont gérées ou sont confiées même au niveau de cette structure où de la manière dont nous construisons notre mémoire collective. Quand, par exemple, les annales parlementaires ont été emportées lors de l'arrivée de l'AFDEL, ou je peux encore aller plus présent, dans le cas le plus présent, où que les rébellions successives, notamment les 1-23, ont détruit des archives précieuses à Goma, allant jusqu'à s'en prendre au matériel didactique et électronique de la CENI. Donc, la perte des archives est une amputation de la vérité. Mais si l'État, vraiment dans sa souveraineté mémorielle et historique, pense à reconstituer l'histoire, eh bien, on doit accorder beaucoup d'importance à la gestion des archives. Donc, à ce titre, toute initiative de préservation, de numérisation et de sécurisation des archives à travers l'intelligence artificielle, elle a toute sa raison d'être et relève beaucoup plus d'un impératif national. Pourquoi je le dis? Parce qu'un peuple sans archives est un peuple sans repères. Et ce peuple serait condamné à revivre ses erreurs dans l'oubli de son histoire. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes en train de plaider pour que cet Institut national des archives soit doté de moyens. Vous avez suivi le professeur à l'introduction. Il dit qu'ils ont, ils dépendent à ce jour des subventions de l'État, mais qui ne sont pas vraiment à la hauteur, ce qui pourrait encore être un obstacle majeur dans la gestion des archives en RDC.
Voilà, merci.
Et nous devons aussi comprendre. Allô?
Allez-y.
Je vais chuter par là en disant que nous devons comprendre que bien que nous tendons vers la numérisation, rien ne remplace les documents classiques. Ou bien la gestion classique des archives.
Parce voilà, merci beaucoup. Vous l'avez déjà dit. Donc rien ne peut remplacer les archives. Merci Junior Mopongo d'avoir appelé à DP Kinshasa avant d'accorder la parole à Beye Saidi qui nous appelle depuis Kisangani puis revenir à notre invité. Je m'en vais lire rapidement ces réactions de Baraka Godefroy. Sur la page Facebook Paroles aux auditeurs, dans le groupe WhatsApp de Paroles aux auditeurs, les initiatives pour rendre les archives plus accessibles et surtout par la numérisation et l'intelligence artificielle représentent une opportunité historique pour la RDC. C'est un chantier prioritaire pour préserver la mémoire du pays, construire une gouvernance moderne et transmettre un héritage culturel aux générations futures. Ces actions doivent s'accompagner d'une volonté politique forte, d'un soutien financier adapté et d'une mobilisation des compétences nationales. Une autre réaction, c'est de Pascal, qui nous écrit les archives. C'est comme un vieux coffre qu'on garde dans la maison poussiéreux, mais plein de vérité. À l'heure de l'intelligence artificielle, ce coffre peut s'ouvrir tout seul, mais à condition qu'on ait au moins gardé la clé. C'est donc pas juste une question de technologie, mais de vision, car un peuple sans mémoire, c'est comme un aveugle sans calme. Il avance, mais il ne sait pas où il va. Voilà, là c'est Pascal. Alors, on va prendre Beye Saidi qui nous appelle depuis Kisangani, et puis on reviendra à notre invité, le professeur Kasongo Mandé-Aimé. Beye Saidi, vous êtes à Kisangani, on vous écoute.
Oui, merci, cher Marcel. Bonjour, bonjour à l'invité, bonjour aux auditrices et auditeurs de la Radio Capu. Cher Marcel, l'initiative visant à rendre les archives plus accessibles à l'ère de l'intelligence artificielle sont globalement très positives et pleines de potentiel tant sur le plan démocratique que sur le plan patrimonial et scientifique, cher Marcel. À ce titre, l'initiative de cette démarche, nous avons la démocratisation de l'accès, nous avons préservation du patrimoine, nous avons également valorisation et réutilisation. Cher Marcel, je dois aller tout juste à quelques questions à l'invité pour donner le temps à d'autres personnes de continuer. La première question que j'ai posée à l'invité, les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent-ils interpréter les documents historiques avec suffisamment de précision? Ça, c'est la première question, cher Marcel. Et la seconde question, quel pourrait être le rôle des archives dans la formation des intelligences artificielles elles-mêmes? Voici ça, les deux questions que l'invité peut nous donner.
Répétez d'abord la deuxième question. C'est comment votre deuxième question, c'est de la répéter, oui.
Quel pourrait être le rôle des archives dans la formation des intelligences artificielles elles-mêmes? Voici ça, la deuxième question, cher Marcel. Mais à moi, cher Marcel, dans la discussion congolaise, il y a un problème tiré des archives. Que le gouvernement congolais fasse l'essentiel de mettre d'abord les services étatiques en utilisant l'intelligence artificielle comme archive, cher Marcel.
Merci. Bon, merci beaucoup, Blessé, depuis Kisangani. Professeur, vous avez suivi toutes ces réactions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci aux uns et aux autres des intervenants, de nos auditeurs, pour leurs questions si pertinentes. Merci aussi parce que pour la plupart des préoccupations, c'était une contribution.
Exactement, pour essayer de... Ils n'ont pas d'une politique, vraiment des archives dans ce pays.
Oui, et la première question, le premier intervenant voulait savoir comment conserver les archives à ce jour. Il y a deux volets, il y a les archives physiques qui nécessitent d'être protégées et là, il faut directement avouer que nous sommes butés à une difficulté infrastructurelle. Nous n'avons pas d'infrastructures conséquentes pour abriter nos archives. Le bureau que nous occupons à ce jour, c'était un bureau relais à l'époque coloniale, c'était un bureau qui accueillait les archives qui venaient de toutes les provinces pour être reconditionnées et renvoyées à la métropole. Et c'est ce bureau-là qui, jusqu'à ce jour, fonctionne comme les archives nationales. Et là, c'est vrai que nous plaidons pour que l'État puisse nous attribuer des locaux fonctionnels assez satisfaisant aux normes de stockage et de conservation des documents. C'est une sérieuse difficulté, c'est une problématique que nous évoquons chaque jour. Pour ce qui concerne l'aspect numérique, nous avons ici d'ailleurs, vous nous donnez l'occasion d'exprimer toute notre gratitude au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que au terme des articles, je pense, 45-46 de l'ordonnance loi 23/010 du 13 mars 2023, portant code du numérique, il nous a concédé une redevance. Une redevance, c'est déjà beaucoup. Une redevance qui devait être donnée par tous les producteurs des archives. Et si on arrivait à signer l'arrêté interministériel, c'est-à-dire entre le ministère des tutelles, culture, art et patrimoine, le ministère en charge du numérique et le ministère des finances, nous aurons notre redevance pour fonctionner. Et je pense que même la question d'infrastructure ne se poserait pas parce que nous serons en mesure de nous doter par nous-mêmes des infrastructures conséquentes. Et là, nous remercions sincèrement le chef de l'État pour cela. Alors, pour parler des archives numériques, nous sommes sur les coffres-forts. Nous travaillons sur un coffre-fort numérique et il faut aussi souligner que la question du coffre-fort numérique fait partie des 70 projets du plan national du numérique. Le plan national du numérique qui a 70 projets et nous avons le projet coffre-fort qui nous intéresse. Et nous avons réussi à acquérir des serveurs qui sont déjà en mouvement, capables de loger des logiciels. Et des archives des différents ministères, des différents services de l'État. Et nous sommes à ce niveau-là. Il n'est que question des procédures et du quitus de la hiérarchie pour que nous puissions désormais garder nos archives sous format numérique. Et là aussi, les dangers permanents à l'heure de l'intelligence actuelle parce qu'il faut travailler de concert avec le service national de sécurité pour la cybersécurité, parce qu'on risque de nous piquer des archives que nous considérons comme non communicables à l'aide de l'intelligence artificielle, on peut nous les voler facilement.
Il y avait une question même par rapport à ça avec Blaise Saïdi qui avait parlé de l'interprétation du document historique avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un lien?
Oui, mais en fait, quand on parle de l'intelligence artificielle, je pense que la moindre compréhension, c'est que c'est à l'aide de ces algorithmes, on arrive à créer une intelligence qui fonctionnerait de la même manière que l'intelligence humaine. Donc, le point de départ, c'est d'abord l'intelligence humaine. Si je puis parler en des termes beaucoup plus courants, imiter et même chercher à dépasser. Alors, l'intelligence artificielle peut partir de nos archives pour nous aider à mieux le comprendre. À mieux le comprendre aussi, de manière beaucoup plus avancée, à les interpréter de manière beaucoup plus avancée, peut-être à prédire même le danger que présenterait et la consultation de telle ou de telle autre archive. Je pense qu'il faut lier ça, les archives et l'intelligence artificielle. Mais il nous faut encore du chemin. Il nous faut du chemin parce que nous devons sécuriser tout ce que nous faisons. Nous devons être prudents. Pourquoi j'ai dit prudents? Parce que les lois du pays distinguent des archives qui sont communicables et des archives non communicables. Non communicables parce que relevant de la sûreté de l'État.
Oui.
Mais avec l'intelligence artificielle, on peut venir nous voler aussi même ce que nous croyons être protégé, et ce que nous croyons protégé pour la souveraineté nationale, pour la sûreté de l'État. Donc, c'est alors...
Rapidement, parce qu'il y a encore d'autres qui attendent.
Oui, oui, il y a des questions ici.
Allez-y, oui.
Merci beaucoup. Les archives nationales, l'INACO, c'est le conservatoire du savoir, le conservatoire... Oui, nous sommes la mémoire, nous sommes la preuve, et aucune nation ne peut cracher sur sa mémoire au risque de se perdre et de ne même pas réaliser qu'on est ailleurs. Alors, j'ai aimé les questions qu'on a posées sur les rapports entre la Bibliothèque nationale et les archives nationales.
Ouais.
Et puis ici, chez nous, dans l'organisation du pays, la Bibliothèque nationale, c'est tout un établissement autonome. Et, alors que ailleurs, la Bibliothèque nationale et les archives constituent un même établissement parce que pratiquement leurs missions s'entrecoupent, s'entrechoquent.
Professeur, s'il vous plaît, on reviendra certainement par rapport à ce sujet. C'est pas tout le temps qu'on parle des archives nationales. Il y a vraiment des auditeurs qui sont intéressés. On va prendre rapidement trois auditeurs en une minute et puis on reviendra à vous. Mais certainement, on va revenir. Je me rends compte que ça intéresse les auditeurs. Alors, on va rapidement aller à Kampala, en Ouganda. Christian Kassissi, s'il vous plaît, vous avez une minute. S'il vous plaît, que vous avez ajouté par rapport à ce sujet? On vous promet qu'on va y revenir. Allez-y, Christian Kassissi, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour une minute?
Merci beaucoup, Marcel. À l'impossible, nil n'est atteint.
Voilà.
Je voudrais dire que l'exigence liée à l'accessibilité des archives à l'aide de l'intelligence artificielle ici répond tout simplement à l'aide des principes des services publics, des principes de mutabilité ou d'adaptabilité qui voudraient à ce que les services publics, dans les cas où examinent ces établissements-là qui gèrent des archives nationales, doivent s'adapter aux nouvelles méthodes de communication liées également à l'intelligence artificielle. Et là, ça n'est de ça, ça n'est pas le cas. Vous vous souviendrez que même à l'aide de la NTIC, les services publics congolais traînaient toujours les pas.
Bon, ce n'est pas le cas, le professeur l'a dit, les chemins sont encore à parcourir, hein. Donc ce n'est pas le cas pour l'instant, mais on pourra y arriver. Désolé, Christian, je promets, on y reviendra. Et merci d'avoir appelé depuis Kampala, en Ouganda. Georges Kilangalanga, vous êtes à Bunyanitori. Georges, vous avez aussi une minute, allez-y.
Je pense que c'est une question très importante.
Oui.
Et pour, comme proposition concrète que je peux proposer au professeur, il faut lancer un plan national de numérisation des archives avec un financement pluriel et avec des objectifs mesurables. Mais aussi, l'INACO doit former les archivistes et créer même un corps d'expertise numérique en lien avec les universités et centres de recherche. Aujourd'hui, l'INACO est sous tutelle du ministère de la Culture. Mais ce ministère ne fait rien. Ce ministère ne fait rien à part la musique, parce que nous aimons beaucoup la danse. Le ministère s'occupe seulement des musiciens, alors que c'est une occasion vraiment à nous pour marquer son temps. Le ministre vraiment doit appuyer l'INACO pour permettre à ce que nous ayons... un service de qualité dans ce service.
Voilà, vous appuyez à ce que l'INACO soit en tout cas financé. Vous avez suivi, ils ont un problème d'autonomie financière. On espère que cet appel sera entendu. Et le tout dernier pour aujourd'hui, Ismaël Mopoyi, qui nous appelle depuis le Lubumbashi. Ismaël, vous avez aussi une minute. Allez-y rapidement. Qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce sujet sur les archives?
Merci beaucoup, Marcel. Bon, voyons les archives constituent une bonne histoire d'une nation. Ben, dit-on, je pense qu'il n'y avait pas moyen de conserver ce genre de documents. Mais aujourd'hui, nous avons deux facettes. Soit la facette électronique et la facette sur le papier. Si une facette peut se perdre, ben on peut récupérer d'une manière ou d'une autre. En plus, on pouvait aussi créer émulation de gens dans toutes les provinces, qui aient aussi les jours ouvrables pour consulter un peu notre bibliothèque des archives, envie de donner l'espoir aux autres. Parce que nous constatons aujourd'hui, même sur les débats historiques, les gens tâtonnent beaucoup, ils ne parviennent pas à nous donner exactement ce qui s'était passé par la négligence. C'est ça ce que j'avais à dire, merci.
Voilà, merci beaucoup Ismaël Mompoyi, depuis Lubumbashi. Professeur, on se rend compte que ces sujets intéressent vraiment les auditeurs, on se rend compte tout que la RDC, c'est pas seulement la politique, hein, sur aussi des questions comme celle-ci, c'est très important de parler des archives, et on se rend compte que les gens ont insisté sur une politique nationale sur les archives, également surtout de vous doter de moyens pour remplir votre mission.
Oui, il y a beaucoup de défis à relever.
Oui.
Et ces défis-là, il faut d'abord donner aux archives leur lettre de noblesse au pays. Et les défis sont nombreux, sont d'ordre politique, d'ordre administratif, d'ordre financier. Et nous pensons que les intervenants, les auditeurs, ils ont tout à fait raison. Chacun a épinglé un aspect du problème. Mais en gros, il nous faut, je pense, une définition, la définition d'une politique globale de l'information gouvernementale. Ça, c'est important. Où la place et les missions des archives administratives devraient clairement être explicitées et définies. Et il nous faut, parce qu'aujourd'hui, même au niveau des ministères, il existe ce qu'on appelle les dantiques. Hein, des directions des archives, des techniques, technologies, d'information et de la communication, qui fonctionnent pratiquement de manière isolée comme des électrons libres. Moi, je pense que...
Il y a quelqu'un qui a même parlé de la formation d'un corps des archivistes. Hein?
Tout à fait. Oui. Il faut mettre en place un comité technique interministériel, hein, destiné à la supervision des activités liées à la gestion des archives et des documents. Des documents. C'est vrai que ça s'impose qu'il y ait un corps d'archivistes. C'est important, comme il existe un corps 2, un corps 2, un corps 2. C'est parce qu'on ne réalisait pas la grandeur, la pertinence de la question fondamentale des archives au pays. Maintenant que des voix s'élèvent à gauche et à droite, des compatriotes appellent de partout pour manifester effectivement que les archives nécessitent d'être considérées comme une fonction capitale dans les administrations publiques. Il faut que, effectivement, la fonction archive soit intégrée dans les organigrammes des différentes administrations, au même titre que la fonction juridique, que la fonction relations ressources humaines, que la fonction. Moi, je pense que là, c'est un défi. Et il nous faut, un auditeur l'a épinglé,
oui,
il nous faut un programme de développement des activités archivistiques au niveau national. Des développements archivistiques et documentaires au sein de l'administration nationale. Et on doit travailler à cela. Il nous faut l'allocation d'un budget conséquent.
Absolument.
D'un budget conséquent, parce que qui parle d'intelligence artificielle, par exemple aux États-Unis, ce sont des milliards, à peu près 200 milliards investis pour l'intelligence artificielle.
Professeur, on reviendra. Je vous promets qu'on reviendra. C'était très intéressant de parler, en tout cas, pour une fois, d'autres choses, et surtout des archives, lorsqu'on sait qu'il y a cette journée de 9 juin qui marque la journée internationale des archives et en RDC. Et aujourd'hui, on se rend compte avec vous comment c'est important de ne pas négliger tout ce qui est lié aux archives. Professeur Kasongo Mandémé, vous êtes directeur général de l'Institution nationale des archives du Congo. Merci d'avoir été de notre. On espère vous retrouver. On va pas tant le mois de juin à prochain. On espère vous retrouver dans les jours à venir. Voilà. Fin de ce numéro de paroles de tour de séjour. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. À très, très bientôt.